Ciel et la nouvelle terre, et on va lire 8 versets dans Apocalypse 21, d'accord ? Apocalypse 21 à partir du verset 1. Jean écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors ce matin, en abordant le sujet du ciel, je sais avant même de commencer que c'est tout simplement impossible de donner une présentation adéquate du ciel. Comment est-il possible de décrire en termes humains ce qui est par nature céleste, ce qui est par nature, j'ai envie de dire, presque incompréhensible pour des humains de comprendre. Même dans 2 Corinthiens 12, Paul dit au verset 3, « Je connais un homme, parlant de lui-même, en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. » Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc Paul a eu le privilège à un moment donné de voir le ciel et il ne pouvait même pas s'exprimer. Alors moi, je n'ai jamais été élevé au paradis comme Paul, d'accord ? Donc, j'ai l'impression que ma tâche est encore plus difficile. Donc, d'emblée, je me sens un peu dépourvu. Ceci dit, sachant que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est sans erreur, je suis totalement en paix avec l'information que Dieu a jugé bon de nous donner sur le ciel. Il n'a fait aucune erreur à ce sujet. Il ne nous a pas donné trop d'informations et il ne nous a pas donné trop peu d'informations non plus. Dieu a jugé bon dans sa parole de nous donner juste ce qu'il faut pour que nous soyons totalement satisfaits. Ça m'encourage beaucoup. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Ceci dit, aujourd'hui, et pour deux dimanches probablement encore, je vais faire de mon mieux pour vous donner ce que j'espère être une juste compréhension du ciel. Alors c'est vrai qu'il faut dire que les hommes de tous les temps ont toujours été préoccupés par le ciel et on désirait y aller. Écoutez, la vie, hein, je pense que vous le savez, est tellement pleine de peines et de souffrances, que les hommes ont toujours langui pour les joies du paradis. Ceci est le cas dans la Bible où les hommes se sont toujours sentis être étrangers et voyageurs sur la terre. Dans Hébreux 11, 13, il est dit ceci, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Les croyants en Dieu savent qu'ils sont de manière passagère sur terre, mais leurs yeux sont toujours fixés sur le ciel à venir. Et David dit dans le psaume 73, le verset 25, en réfléchissant aux méchants sur la terre, il dit « Quel autre ai-je que toi au ciel ?» Les hommes ont toujours regardé vers Dieu qui est au ciel. Voilà le cri du croyant en fait. Et pour le croyant, penser au ciel devrait être la norme. Dans Colossiens 3, verset 1, Paul dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous êtes morts et votre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. » Donc c'est un commandement, il est en train de nous dire « Fais attention chrétien parce que tu peux être trop attaché à la terre. » Il dit « Tu es ressuscité avec Christ et donc pense aux choses d'en haut. » Mais pourquoi vous dites, pourquoi est-ce que je dois me fixer à penser sur les choses d'en haut, sur le ciel, les choses à venir? Eh bien, pour beaucoup de raisons. Parce que dans 1 Jean 2, verset 17, nous dit que le monde passe. Et c'est intéressant que dans 1 Jean 2, le monde est décrit comment? Voici comment le monde est décrit par Jean, d'accord? Trois manières de décrire le monde. C'est tout simple, d'accord? Et le monde, donc le côté mauvais du monde... La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil. Moi, j'appelle ça les trois F. Les trois F. Fille, fric, fierté. Voilà ce qui décrit le monde. Voici ce à quoi les gens, finalement, pourquoi ils vivent. Alors là, c'est global ce qu'il dit, mais c'est ce que j'en dis là. Mais il dit, ces choses vont passer. Autre raison pour laquelle nous devrions penser au ciel souvent, c'est parce que dans chapitre 21 et le verset 2, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Qui est au ciel? Dieu. Dieu est au ciel. Jésus nous dit de prier dans Matthieu 6, notre Père qui est aux cieux. Écoutez, le Père y est. Chaque fois que vous priez le Père, vous êtes en train de prier le Père aux cieux. Dans Actes 7, 55, Jésus y est, on apprend. Alors bien sûr, il y a beaucoup de textes qui le disent, mais j'ai toujours beaucoup aimé celui-ci. C'est quand Étienne est en train de mourir. Maintenant, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc le Père y est, le Fils y est. Luc 22, 43 nous dit que les anges y sont. Tous les morts en Christ y sont. Apocalypse 6, 9 à 11. C'est là où nous recevrons notre récompense. Matthieu 5, 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est là où nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous sommes citoyens des cieux, nous dit Philippiens 3, 20. 1 Pierre 1,4 nous dit que c'est là où est notre héritage. Et c'est peut-être une des raisons que Salomon a écrit dans Ecclésias 7,1, ces lignes bien connues. Ah non, c'est pas du tout ça. Oui, Ecclésias 7,2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Quand tu vas en enterrement, tu penses à l'au-delà. Et pour le chrétien, il se dit « Waouh ! Moi, je sais où je vais. » Pour un non-chrétien, c'est horrible d'aller en enterrement. Donc il dit « Va souvent en enterrement. Va à des enterrements. » Parce que ça va te faire penser à ce qu'il faut. La vie après la mort. Et donc, le chrétien languit pour le ciel. Alors le mot « ciel » est intéressant. Le mot « ciel » qu'on voit apparaître dans Apocalypse 21:2 est utilisé plus de 580 fois dans la Bible, dans plus de 550 versets. Le mot hébreu « shamayin » veut littéralement dire « les hauteurs » et le mot grec « uranos » duquel nous dérivons le mot « uranus », donc de la planète, décrit ce qui est élevé ou haut. Alors certains sont troublés parce que dans 2 Corinthiens 12:3, il est dit que Paul fut ravi jusqu'au troisième ciel. Alors certains disent, ouais, alors, mais s'il y a trois ciels alors? Alors non, alors oui et non, mais il y a trois ciels, mais le premier ciel, c'est simplement l'atmosphère où volent les oiseaux. C'est ça, là, je suis en train de respirer le premier ciel, d'accord? Le deuxième ciel, c'est la demeure des planètes. Et des planètes, c'est là où vont les fusées. La Bible appelle ça le deuxième ciel, d'accord? Et le troisième ciel, ah, ça c'est la demeure de Dieu, où habitent les anges de Dieu et les saints décédés. Donc alors, quand il dit trois ciels, il n'y en a vraiment qu'un, il n'y a qu'un ciel, là où Dieu habite et là où nous habiterons avec lui. Alors la Bible donne plusieurs manières de décrire le ciel, par exemple, le ciel ou les cieux, ça on a vu dans Matthieu 6. Ici, le nouveau ciel ou la nouvelle terre. Dans Apocalypse 2:7, le paradis. Il y a aussi le tabernacle de Dieu, Apocalypse 21:3. La patrie céleste, Hébreux 11. La montagne de Sion, Hébreux 12. Le royaume céleste, de Timothée 4. En haut, Colossiens 3. La maison du Père, Jean 14. La demeure du Très-Haut, Psaume 46. Devant le trône, 1 Roi 22. Auprès du Seigneur, 2 Corinthiens 5, et encore la Nouvelle Jérusalem qu'on va voir tout à l'heure. Mais le texte où le ciel est le mieux et le plus décrit, c'est le texte d'aujourd'hui, Apocalypse 21 et 22. Alors, peut-être quand même dire une chose encore. Quand les gens essayent d'imaginer le ciel, et peut-être vous êtes dans ce cas, je ne sais pas, d'accord ? Souvent, les gens se disent, et je crois que c'est l'art qui nous a influencés, « Ah ouais, le ciel, c'est un endroit où on va sorte de flotter. On va flotter là-haut, il y aura un ciel bleu, il y aura bien sûr des nuages, d'accord ? Puis on va flotter, waouh, trop bien, d'accord ? Et puis, peut-être aussi, vous vous dites, il y aura des petits cupides, d'accord ? Qui volent avec des arcs et des flèches en cœur, et boum, d'accord ? Ça, c'est comme ça que l'art a décrit le ciel. Et il y a même des personnes, honnêtement, qui se disent, moi je ne sais pas vraiment si j'ai envie d'y aller là-haut. Quoi. Ça ne m'a pas l'air hyper enthousiasmant, parce que finalement, qu'est-ce que je vais faire pendant toute l'éternité là-haut, en train de flotter sur un nuage quoi, hein. Vous avez déjà eu cette pensée? Je parie parce que je l'ai déjà eu, d'accord? Non, c'est très bien, je vois des gens qui disent non, c'est très très bien, d'accord? Mais certains ont presque l'impression que le ciel pourrait être un peu barbant. Alors écoutez, si c'est votre compréhension du ciel, sachez qu'il n'y a rien de moins biblique que cette description du ciel. Et c'est ce qu'on va commencer à voir ce matin. Ce matin, on va commencer en regardant ce que la Bible nous dit sur le sujet, les six premières caractéristiques époustouflantes du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Et je dis les six premières parce qu'il y en a beaucoup plus, d'accord, mais ce matin, dans ce texte qu'on va, on va avoir six caractéristiques incroyables du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Numéro un, le dévoilement éclatant du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Chapitre 21, verset 1. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors déjà, ce verset commence avec « puis je vis ». Cette petite phrase est une phrase chronologique, comme nous l'avons déjà vu dans le livre de l'Apocalypse. Donc ceci est le dernier événement dans une suite étonnante d'événements vus dans le livre d'Apocalypse. Vous vous rappelez, on a tout commencé avec les 7 ans de la grande tribulation. Ensuite, la bataille d'Armageddon a eu lieu. L'Antichrist a été ensuite condamné dans l'étang de feu. Le royaume de Dieu sur terre, appelé le millénium, a eu lieu et ensuite s'est terminé, et un royaume qui aura duré 1000 ans. Ensuite, la dernière bataille de Gog et Magog a eu lieu où tous les non-repentis ont été détruits par le feu. Ensuite, on a vu que le diable a été condamné à l'étang de feu. Et finalement, dimanche dernier, on a vu le jugement dernier du grand trône blanc qui a aussi eu lieu. Tous les impies de tous les temps, ceux qui auront refusé le salut en Jésus-Christ, auront été jugés et condamnés dans l'étang de feu. Et donc, ceci mène à notre texte d'aujourd'hui. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, juste après le grand trône blanc. Donc il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, question, pourquoi est-ce que Jean parle de nouveau ? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Eh bien, allez avec moi à 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Donc, Pierre est en train de décrire la fin du monde ici. Regardez ce qu'il dit. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, juste après le jugement du grand trône blanc, notre terre et notre ciel, donc le premier et le deuxième ciel, si vous voulez, d'accord, notre ciel, notre air, là où les oiseaux volent, notre univers, les planètes, le soleil, les galaxies, tout ça seront totalement brûlés et détruits. Car le verset 1 d'Apocalypse 21 nous dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Donc, Dieu va littéralement détruire la terre et les cieux que nous connaissons aujourd'hui et va, par une transformation cosmique, créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Écoutez, c'est hyper important ce qu'on est en train de dire là. Ça veut dire qu'il y aura une nouvelle création, un nouveau ciel, une nouvelle terre, mais c'est important, c'est quelque chose de nouveau. Là où l'humanité des rachetés vivra dans la présence de Dieu. Alors, ce n'est pas une idée nouvelle. Dans Ésaïe 65, 17, il est dit « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Il est dit plus tard que les choses du passé, on ne s'en rappellera même pas. Dans Ésaïe 66, 22, il dit qu'il y aura de nouveau des nouveaux cieux et une nouvelle terre que je vais créer, nous dit Dieu. Dans 2 Pierre, on vient le lire. Hébreux 12, 26 à 27 semble faire une allusion à la même chose. Donc tout ce qu'il faut souligner, moi c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à ça cette semaine parce que ça m'a réjoui en fait. La Bible est claire et enseigne qu'il y aura une nouvelle terre créée par Dieu. Oui, un endroit réel, une terre dure, en dur comme ça. Aussi réelle que la terre maintenant sur laquelle nous sommes. Une terre tangible, ça va être une planète probablement. Dans un nouvel univers, totalement réel, où les croyants vont vivre sur cette nouvelle terre avec des corps physiques, des nouveaux corps physiques. Vous rappelez, quand Jésus est ressuscité, il avait un corps glorifié. Nous aurons des corps glorifiés, nous vivrons sur cette nouvelle planète. Autre chose que nous connaissons aujourd'hui. Je ne fais que de lire le verset 1, d'accord ? Mais il parle aussi d'un nouveau ciel. Alors il y a deux possibilités ici. Ce nouveau ciel pourrait être le premier et le deuxième ciel qu'on a vu dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 12, excusez-moi, verset 3. Là où sont les planètes et les galaxies, ça c'est une possibilité. Donc ça va tout être renouvelé, ça c'est certain. Certains commentateurs pensent que Dieu pourrait en faire se référer à un nouveau troisième ciel. C'est-à-dire que le ciel, là où la demeure de Dieu elle-même va être recréée. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu est le créateur de tout. C'est lui qui a créé le ciel, en fait. Alors certains se disent, mais est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas même un nouveau ciel-ciel ? En fait, j'en sais rien. Je vous dis franchement, d'accord ? Mais peut-être. Quelque part, ce serait un recommencement à zéro de tout. Mais regardez encore le verset 1. Il y a un petit détail intéressant, et la mer n'était plus. Détail intéressant, puisque les mers couvrent actuellement 70% de la surface de la terre. Alors la seule eau décrite dans le ciel, c'est le chapitre 22, verset 1. Il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors c'est intéressant, il dit, c'est de l'eau un fleuve d'eau de la vie. Alors, l'eau qui sort du trône de Dieu dans ce nouveau ciel, est-ce que c'est de l'eau, l'eau, comme nous avons de l'eau eau aujourd'hui, H2O, ou est-ce que c'est une eau de vie spirituelle? Ben, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus de mer. Alors, c'est intéressant qu'avec, si on enlève la mer, ça veut dire que le cycle hydrologique ne pourra plus avoir lieu. Vous savez, c'est le cycle hydrologique, c'est l'évaporation, ça monte et ça redescend comme pluie. C'est ça le cycle. D'accord ? Ah, puisqu'il n'y a pas de mer, il n'y aura pas d'évaporation. Donc il n'y aura pas de pluie. Donc ça change un peu tout. Donc ça va être hyper différent que la Terre aujourd'hui. Désolé, hein, si vous aimez les bateaux, ça va être un peu compliqué là-haut, d'accord ? Mais peut-être qu'il y aura un autre truc à faire qui sera super sympa, je pense, d'accord ? Mais c'est pas grave en fait qu'il n'y ait pas d'eau. Parce que nos corps glorifiés n'auront pas besoin d'eau pour survivre. Alors, certes, Jésus, en tant qu'homme ressuscité, a mangé, il a bu, mais ce n'est pas nécessaire. C'est un corps glorifié, un corps spirituel. Alors, certains encore voient ici une métaphore, la mer représenterait le mal, et que dans le ciel, le mal n'existerait plus. Dans 13.1, l'Antichrist sort de la mer, il est dit. Alors, ce n'est pas impossible. C'est possible qu'il y ait une métaphore ici. Il n'y a absolument plus de mal dans le ciel, c'est possible, mais j'ai tendance à vouloir prendre ça de manière littérale et dire, ben voilà, il n'y a plus de mer dans le nouveau ciel, c'est un nouveau ciel, une nouvelle terre, tout est nouveau, il n'y a plus besoin d'eau. Donc ça, c'est le premier point. Le dévoilement éclatant du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Numéro 2, la capitale scintillante du nouveau ciel et de la nouvelle terre. C'est vraiment étonnant tout ça. Regardez verset 2. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc Jean est en train d'avoir sa vision, et il nous dit qu'il voit une ville appelée la nouvelle Jérusalem descendre dans sa gloire étincelant, descendre du ciel pour faire partie de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Alors déjà, qui a créé cette ville? On va parler beaucoup la prochaine fois, d'accord? Mais regardez, par exemple, dans Hébreux 11, 10, je vais vous le lire, parlant d'Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ah, c'est intéressant ça. Donc Abraham, déjà dans Genèse, il est dit, attendez la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. On a l'impression qu'Abraham déjà avait l'idée d'une cité céleste. Et Jésus, dans Jean 14, 1, vous vous rappelez certainement de ce texte, il dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Donc Jésus dit qu'il va aller préparer une place quelque part. Il ne dit pas précisément où c'est. Mais selon Abraham, et peut-être selon Apocalypse 21.2, c'est dans cette cité céleste qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et là, elle est décrite au verset 2 d'Apocalypse 21 comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous savez, on était en Afrique du Sud, là, en septembre, pour le mariage de notre fils James. Et quand Salomé est arrivée là, elle était belle. Puis lui, il était beau, d'accord. Oh là là là. Mais c'est vrai qu'une mariée, elle tenait sa fleur, c'est la fleur nationale sud-africaine, j'ai oublié le nom. Mais elle était vraiment, j'ai l'impression qu'elle était scintillante. C'était tellement beau, vous voyez. Ben c'est exactement ce qu'il dit ici. Comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà la description de cette ville céleste, la Nouvelle Jérusalem. Alors notons aussi, c'est une ville, elle est nouvelle. Comme les cieux et comme la terre. Elle ne ressemble à rien à Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle ville. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Jérusalem, Mais ce n'est pas comme si on va se dire, ah ouais, je suis à Jérusalem. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est nouveau. Alors, notons bien, la nouvelle Jérusalem au verset 2 n'est pas la même chose que le nouveau ciel et la nouvelle terre au verset 1. C'est deux choses différentes. Donc, il y a un nouveau ciel, nouvelle terre, et une ville qui s'appelle la nouvelle Jérusalem, qui fera partie de cette nouvelle terre. Et on sait aussi qu'elle est différente parce que vous allez voir la prochaine fois, à partir du verset 9, le descriptif de la ville, il y a même les mesures. Les mesures, le nombre de portes, les murs, tout est décrit pour cette ville. C'est vraiment une ville, la capitale du ciel, comme la capitale de la Suisse est Berne, ben la capitale de la Nouvelle Terre, ce sera la Nouvelle Jérusalem. Elle est décrite aussi au verset 2 comme une ville sainte. Mais écoutez, pourquoi ce descriptif? Parce que l'ancienne Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui a été un théâtre d'innombrables guerres et de batailles dans l'histoire. Elle est teintée de sang. Cette nouvelle Jérusalem, elle est parfaitement sainte. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Il y aura absence de tout péché dans cette nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que tous les habitants de cette nouvelle Jérusalem sont saints. Tous. Ces gens vivront et travailleront, oui, travailleront, ça on y verra la prochaine fois aussi, dans une harmonie parfaite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun péché. Pourquoi? Parce que tous les gens qui y sont ont été pardonnés par Jésus-Christ et leur péché a été ôté, Jean 1, 29. Et donc, ceux qui accèdent à cet endroit sont sans péché. Il n'y a pas de péché dans cet endroit. C'est pour ça qu'ils l'appellent ville sainte. Alors le fait qu'elle descende du ciel, certains pensent qu'elle existe déjà. Peut-être. Lorsqu'on meurt aujourd'hui, on va dans la présence du Seigneur, on va où? Ben, peut-être déjà dans cette nouvelle Jérusalem. C'est intéressant. Ce qui est super, regardez, c'est dans chapitre 22, et le verset 3, on apprend un truc intéressant par rapport à cette ville. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Donc c'est très spécifique. Dans cette ville, c'est là où est emplacé le trône de Dieu et de Jésus, de l'agneau. Donc, lorsqu'on s'en va pour rencontrer le Seigneur, il est bien probable que ce soit dans cette ville que nous y allons. Puisque dans Jean 14, Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place. Donc, au verset 2, la Nouvelle Jérusalem descendra pour devenir la capitale de la Nouvelle Terre. Elle n'est pas encore créée, donc elle ne peut pas encore faire partie de cette Nouvelle Terre. Ça arrivera qu'à la fin. Et on y sera pour toute l'éternité. Troisième chose qu'on apprend sur cette ville, la relation privilégiée dans le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre. La relation privilégiée. Regardez le verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Prenons un ange qui annonce ce verset 3, mais dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Alors le mot « tabernacle » veut dire « tente ». Dans l'Ancien Testament, Dieu rencontra son peuple au travers du tabernacle. Mais Dieu était tellement saint que nul ne pouvait s'approcher de lui. Il apparaissait comme une colonne de feu la nuit et une colonne de nuages la journée. Mais au ciel, ce sera complètement différent. Écoutez, tout le monde pourra avoir accès direct à Dieu. On pourra le voir exactement comme il est. On pourra voir Dieu tête à tête, si vous voulez. Face à face. Dans Matthieu 5, 8, Jésus a dit « Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. » Écoutez, pensez-y. « Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. » Alors, comment est-ce qu'on reçoit un cœur pur? Vous dites « Mon cœur, il est noirci. » Oui, il est noirci. Moi, je ne peux rien faire pour purifier mon cœur parce que je suis né dans le péché, nous dit la Bible. Mais Jésus-Christ ôte le péché du monde. Donc, si Christ est vraiment mon sauveur et mon Seigneur, mon péché est ôté, donc je vais vraiment pouvoir voir Dieu face à face. Oui, parce qu'il change nos cœurs et les rend purs. Et puis l'ange ajoute ici dans le verset 3, « Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Dieu sera là, devant nous, autour de nous, il sera présent. Nous le verrons comme il est, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, dans toute sa toute-puissance, dans toute sa sainteté, dans toute sa splendeur. Il habitera avec nous, nous dit le texte. Vous savez, quand Ésaïe, vous vous rappelez peut-être dans Ésaïe chapitre 6, pour un instant, il a eu l'occasion de voir le pan de la robe de Dieu dans le temple. Il entendait les séraphins et des anges proclamer « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et la réaction d'Ésaïe immédiate était celle-ci. « Malheur à moi, je suis un homme perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. » La première réaction d'Ésaïe lorsqu'il voit juste le pan de la robe de Dieu, c'est de dire « Oh, je suis fichu. Je suis un pécheur comparé à la sainteté majestueuse de Dieu. » Et alors tout de suite l'ange, il prend un tison, et il lui touche la lèvre et il le purifie. Mais bien aimé, ce sera complètement différent au ciel. Aujourd'hui, si Dieu apparaissait ici, on serait tous waouh, non, Seigneur. Alors bien sûr, on est pardonné en Jésus-Christ, mais on a encore la teinte du péché en nous et tout ça. Mais au ciel, ce sera limpide. Dieu sera là, tu seras là, si tu le connais. Je serai là. C'est incroyable. Psaume 16, 11, « Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie en ta présence, de plaisir éternel à ta droite. » En Corinthiens 2, 9, « Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun esprit n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. » On n'arrive même pas à l'imaginer, nous dit-il. C'est inimaginable ce qu'on va voir et ce qu'on va vivre. 1 Jean 3, 2 nous dit que nous le verrons comme il est. Apocalypse 4 nous dit qu'on adorera Dieu comme on ne l'a jamais fait avant. Daniel 12 nous dit qu'on va briller dans sa présence. Et c'est pour ça que Philippiens 1, verset 21, décrit ce que nous devrions tous ressentir. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Chrétien, je te pose une question. Est-ce que mourir t'est un gain ? Est-ce que tu languis de mourir? Non mais, les gens ils écoutent ça, ils disent « mais il est malade ce gars de dire ça ». Non, non, pas du tout. Nous, la mort est un gain. Parce que la mort nous amène à pouvoir voir Dieu face à face. C'est pour ça que le chrétien devrait être joyeux par rapport à la mort. Alors bien sûr, on est triste de mourir parce qu'il y a de la perte. Mais il y a la joie. Vous dites, ouais, mais John, mais écoute, là-haut, ça va être long, l'éternité, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Est-ce que c'est vraiment long? Alors ça, on en reparlera beaucoup plus la prochaine fois, mais je pensais aux Alpes. Écoutez bien. La seule manière, je peux vraiment essayer d'expliquer ça, d'être avec Dieu et le côté extraordinaire que ça va être d'être avec Dieu, c'est la montagne. Tu sais, à Genève, ici, nous vivons parmi les plus beaux paysages du monde. Il faut dire ce qui est. Les Alpes tout autour de nous ont une beauté, je pense que vous êtes d'accord, à couper le souffle. Et cette beauté, c'est super avec les quatre saisons, ben elle change au fur et à mesure que les saisons changent. Ça change toujours, les couleurs, toute la beauté, c'est majestueux. Alors, je vous pose une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous lasser à regarder les Alpes? Est-ce qu'il y a un jour dans votre vie où vous avez dit « Ah, j'en ai marre de regarder ces Alpes ». J'ai tout vu, il n'y a rien de neuf, c'est moche, j'en ai marre, quoi. Franchement, Dieu, tu ne pourrais pas changer le paysage, s'il te plaît? Est-ce que vous avez déjà essayé de penser? Non. Pourquoi pas? Parce que les Alpes sont tellement époustouflantes, tellement belles, qu'on peut se mettre au haut du salève et regarder pendant des heures et jamais se lasser. Si vous allez à Flaine et vous montez en haut, vous savez, quand vous arrivez tout en haut du télécabine, là, tu peux t'asseoir, tu manges ton sandwich, tu dis, c'est trop bien. Moi, ça fait 23 ans que je me dis, waouh, c'est trop beau le truc, quoi, tu vois. Et chaque fois que tu vas, c'est comme c'est renouvelé. C'est jamais assez. C'est toujours plus beau. Écoutez, mes amis. Les Alpes, c'est que la création de Dieu. C'est rien comparé au Créateur des Alpes. Et quand on sera là-haut, les Alpes, ce sera les quoi ? Là, on sera face à face avec le Créateur des Alpes, qui un jour a dit « Mont Blanc ». Face à face avec le Créateur. Quatre. La félicité débordante dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. La félicité débordante. Verset 4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Écoutez, le ciel va être tellement radicalement différent que le monde. Ça va être totalement différent, Seigneur, les amis. Notre monde connaît tellement de drames, de crimes, de guerres, de tristesses, de haine, de mal et d'autres problèmes liés à un monde déchu que finalement la réalité de notre monde, il faut dire ce qui est, remplit les gens de larmes, les gens meurent, les gens sont en deuil, les personnes crient de chagrin, les gens deviennent malades. Bref, c'est compliqué la vie. Alors bien sûr, il y a des moments super. Dieu nous a créés pour jouir de la vie, mais la vie, elle est ponctuée de problèmes. Et nous devons tous subir les problèmes de la vie. L'âge, la maladie, la mort, tous ces trucs. Regardez verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort, terminée, il n'y en aura plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Écoutez, c'est incroyable. Dans le ciel, il y aura absence de tout mal, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de mal, plus de péché dans le ciel, plus de tristesse, plus de douleur, plus de chagrin, pas de mésaventure, pas de remords, pas de larmes, pas de rupture de relation, pas de mort, pas de maladie, aucune larme, aucun deuil, aucun cri, aucun mal, rien, aucun, zéro. Verset 4, les premières choses ont disparu. Pourquoi ? Parce que la terre a été brûlée. Les impies sont loin jugés. Et ceux qui rentrent, ceux qui sont pardonnés en Christ, pas de mal, pas de péché. Verset 5, lui, il était assis sur le trône, dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors moi, je trouve super le verset 5. C'est comme s'il anticipe, des gens disent, non, mais franchement, vous êtes malades, les gars. Vous croyez vraiment ça ? Verset 5, et il dit, écris ces paroles parce qu'elles sont certaines et véritables. Non, mais vous croyez vraiment ça, les chrétiens ? Bah plutôt. Parole certaine et véritable. Verset 6, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En fait, vous savez ce que c'est intéressant, ce verset ? Ici, Dieu, en fait, déclare la fin de l'histoire humaine, comme nous la connaissons aujourd'hui. Et il déclare le début, si vous voulez, de l'humanité éternel. Enfin, sur cette nouvelle terre et dans ce nouveau ciel. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Point. Point. Donc voici ce qui nous attend. Une vie de félicité éternelle sans plus jamais ressentir ni un petit chagrin. Jamais. Que de la joie perpétuel. 5. Les résidents bienheureux du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Les résidents bienheureux, verset 6, milieu du verset, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement, et celui qui vaincra héritera de ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors la question qu'on se pose ici, c'est qui aura le privilège de résider dans cet endroit. La réponse est simple, celui qui a soif. C'est ce qu'il dit. Mais vous dites, ouais, mais soif de quoi ? Jésus répond dans Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Alors ça veut dire quoi? C'est intéressant, si on va au sermon sur la montagne dans Matthieu 5, on l'apprend en verset 1. C'est intéressant, c'est le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est quoi un pauvre en esprit? C'est quelqu'un qui est brisé par son péché. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Mais c'est qui un affligé? C'est quelqu'un qui est affligé par son péché. Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors c'est quoi un débonnaire? Ben c'est quelqu'un qui ne réagit pas lorsque quelqu'un d'autre lui montre son péché, parce qu'il est brisé par son péché. Écoutez, les trois premiers béatitudes, les trois premières béatitudes nous parlent du remords que nous devons avoir sur notre péché. Donc la condition pour avoir le ciel, c'est d'avoir un remords pour notre péché. Je déteste mon péché. Et ensuite, le quatrième, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Seigneur, j'en ai marre de mon péché, je veux ta justice en Jésus-Christ, donne-la-moi. Pardonne mon péché. » Oui, c'est ça. Le psaume 42, vous connaissez ce psaume très bien, versets 1 et 2. « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Est-ce que tu soupires pour Dieu? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux Dieu et sa justice? Est-ce que tu es prêt à rejeter ton péché, dire oui à Jésus-Christ? Car il dit à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Jean 4. Il dit ensuite, celui qui vaincra héritera ses choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Ça veut dire quoi, celui qui vaincra? Bien, je pense que 1 Jean 5 nous donne la réponse. 1 Jean 5, 4 et 5 nous dit, et eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ce n'était pas ce verset que je cherchais, je suis dans le mauvais chapitre. 1 Jean 5, 4, excusez-moi, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il vaincra? Qu'il héritera ces choses? Ben, le chrétien, il triomphe du monde parce qu'il est en Christ. Donc, la question que je te pose, c'est, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Tu préfères ton péché ou la justice de Dieu? C'est finalement la question. Quelle invitation? Si tu as soif, viens. Si tu as soif, viens. Ne laisse pas passer ça, quoi. Ce serait de la folie, quelque part. Alors, ça mène au dernier point. Les exclus maudits du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Vous savez, c'est intéressant, hein? Ce descriptif incroyable du ciel, et paf! Le verset 8. Jusqu'au bout, la Bible invite les pécheurs à venir. Verset 8. Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Jean termine avec un avertissement et une invitation. En fait, il est en train, si vous voulez, de pousser le lecteur à un bilan personnel. C'est ce que je vais faire maintenant. Là, c'est vraiment pratique, d'accord? Quelques minutes encore. On va faire un bilan personnel. Je vais vous pousser à faire ce bilan personnel. Donc ça va être inconfortable. D'accord? Voici la question. Qu'est-ce qui caractérise ta vie aujourd'hui? En fait, la question c'est, Est-ce que je suis chrétien ou pas? Alors, la réponse est, qu'est-ce qui caractérise ta vie? Parce que ton fruit, le fruit de ta vie, va prouver d'une manière ou une autre si vraiment tu es en Christ ou pas. Alors, je te pose une série de questions tirées de ce verset. Numéro 1, es-tu lâche? C'est bizarre comme question, non? C'est le premier mot ici. Mais pour les lâches, est-ce que tu es lâche en ce qui concerne les choses de Dieu et de Christ? Est-ce que tu manques du courage de confesser Christ? Est-ce que tu hésites de parler de Jésus-Christ? As-tu honnêtement un peu honte de l'Évangile? As-tu peur de ce que les gens vont penser de toi si tu leur dis que tu es chrétien? Et pire, que tu leur dis que tu fréquentes une église évangélique? Eh bien, si tout ça, t'as peur, et peut-être est-ce que c'est un signe que tu ne connais peut-être pas le Seigneur. Vous savez, il y a un prix à payer. Jésus a dit, celui qui me suit doit prendre sa croix. 2. Es-tu incrédule? C'est ce qu'il dit, verset 8. Incrédule concernant les choses de Dieu et de Jésus-Christ. Peut-être tu ne peux pas, ou plutôt tu ne veux pas admettre ton besoin pour Jésus-Christ. Tu ne veux pas admettre ton besoin d'inviter Christ à rentrer dans toi et l'inviter de devenir ton sauveur et ton Seigneur. Tu as peur de lui demander d'envahir ta vie, en fait. En fait, tu as peur de Galates 2:20 qui dit que si tu te repens de ton péché, tu l'invites à te pardonner. Voici ce qui va arriver. J'ai été crucifié avec Christ, dit Paul, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu dis, non, moi j'ai la trouille, quoi. J'ai la trouille de laisser Jésus-Christ devenir résident dans ma vie et de devenir le maître de ma vie. Non, moi je veux contrôler ma vie. Je ne veux pas laisser quelqu'un d'autre contrôler ma vie. Hein. Eh bien, si c'est ton cas, pose-toi la question, alors est-ce que tu es chrétien? Si Jésus n'est pas ton Seigneur, il ne vit pas en toi, est-ce que tu es chrétien? 3. Vis-tu une vie abominable? C'est ce qu'il dit ici, abominable. Tu dis quoi, abominable? Ça veut dire quoi? J'ai regardé dans le dictionnaire. Fortement désagréable, qui suscite l'horreur. Je te pose la question, ta vie était belle ou elle n'était pas belle? Est-ce que tu es une personne désagréable? Est-ce que tu vis pour toi, pas pour les autres? Est-ce que tu contestes, tu te bats, tu réponds aux autres, t'es fâché, t'es râleur, t'es méchant, bref, t'es abominable? Est-ce que ça te caractérise? Si oui, est-ce que Christ est en toi? Parce que si Christ est ton maître, tu ne devrais pas être comme ça. 4. Es-tu débauché? Débauché? Ouais, Hébreux 13, 4 nous dit ceci par rapport à la débauche. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés, les adultères. Est-ce que tu vis pour tes passions sexuelles? Pas de restrictions. Moi, j'ai parlé avec une fois quelqu'un qui m'a dit clairement, je suis un addict sexuel. J'ai rencontré un autre gars, vraiment, un jeune, qui m'a dit qu'il a visité des centaines de prostituées. Centaines. Vous dites, ouais, c'est horrible, ça c'est pas moi. Eh oh. Oui, mais c'est intéressant parce que dans Hébreux 13, 4, il est dit que dans le plan de Dieu, la sexualité est réservée pour une situation uniquement, le mariage. Tout ce qui est hors mariage, c'est ou bien adultère ou débauche. Et en fait, quand vous couchez avec, enfin je vous, hein, quand quelqu'un couche avec quelqu'un qui n'est pas son épouse ou son mari, vous savez ce que vous venez de faire? Vous venez de voler la virginité de cette personne qui est due à son futur conjoint. Vous êtes en train de voler ce qui n'est pas à vous. C'est un vol. C'est de la débauche. Et Dieu dit que c'est quelque chose qu'il juge. Même la pornographie, vous savez, Job 31 a dit qu'il a dû faire un pacte avec ses yeux pour qu'il ne regarde pas la vie vierge. Ouais, quand je me permets de me goinfrer, je ne sais pas comment on dit ça, de me goinfrer en pornographie, je suis en train de voler ce qui n'est pas à moi. Ce n'est pas juste. Le psaume 101 nous dit de ne pas mettre ces choses devant nos yeux. Tout ça, ça fait partie de la débauche. Alors, qu'on puisse lutter, c'est une chose, mais est-ce que ma vie, c'est une vie de débauche? Ben, si oui, je dois me poser des questions. Ben, est-ce que je connais vraiment le Seigneur? Es-tu magicien? Magicien, tu dis? Alors, bien sûr, d'un côté, c'est toute forme de spiritisme. Deutéronome 18 nous dit que ça, c'est interdit. Mais c'est intéressant que le mot grec pour magicien ici, c'est le mot pharmaco de pharmacie. Pourquoi? Parce qu'il parle ici de drogue, en fait. Ceux qui se donnent aux drogues. Alors, je pense que c'est les deux choses. Le spiritisme d'un côté, ceux qui se droguent de l'autre. Moi, je me suis drogué pendant des années. Hein. Enfin, c'est des drogues light, disons, mais voilà. C'est... Mais moi, je me dis que même la nicotine, quelque part, c'est une drogue. Moi, j'ai fumé 2 paquets par jour pendant environ 8 ans. Hein. Et puis, c'est quand j'ai rencontré Christ que j'ai réalisé, mais John, t'as pas besoin de tout ça, en fait. Non, parce que Christ était en moi. Donc, la question, c'est, est-ce que tu es addict de substances, en fait? Ou est-ce que tu es addict à d'autres choses qui remplacent Jésus-Christ? Quelque part, si tu dis oui, ben t'es un peu magicien selon la définition de la Bible. Pharmaco. Et regardez, est-ce que tu es idolâtre? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment le maître de ta vie? Ou bien honnêtement, est-ce que c'est l'argent, peut-être tes investissements, tes biens, le pouvoir, ta carrière, ta famille? Est-ce qu'il y a des choses qui usurpent la place de Dieu dans ta vie? Alors, on doit tous travailler, on passe beaucoup d'heures à tout ça. Mais ton cœur, il bat pour quoi, en fait? Si tu ne peux pas répondre, non, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas lui. Est-ce que tu le connais vraiment? Finalement, est-ce que tu es menteur? Jésus, il est la vérité, nous dit dans Jean 14, 6. Un chrétien ne ment pas, il dit la vérité. Il dit ce qui est vrai. Alors si tu mens, tu peux te poser la question, est-ce que Christ est ton Seigneur? C'est radical ce que Jean fait ici. Il est en train de dire, écoutez les gars, c'est pas un petit truc ce qu'on est en train de voir là. Oui, le ciel c'est super, la nouvelle terre c'est génial, la nouvelle Jérusalem c'est super. Verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est le contraste est total. Donc, la question ici, c'est, est-ce que Christ est ton sauveur et ton Seigneur? Si tu peux répondre oui, tu peux te réjouir, parce que tu sais ce qui t'attend. Si tu ne peux pas répondre oui, tu sais aussi ce qui t'attend. Donc, cours à Jésus-Christ et repends-toi. Aujourd'hui, ne tarde pas. Prions. Seigneur, merci. Merci de tout cœur pour ce texte incroyablement beau et profondément troublant en même temps. Seigneur, travaille dans chaque cœur, je te prie. Au nom de Jésus. Amen.